Frédéric Pollier, vous présentez actuellement La paranoïa au théâtre du Grütlin. C'est donc un texte de Raphaël Spreckelburg. C'est la deuxième fois que vous présentez un travail de Spreckelburg, après L'entêtement. Comment expliquer cette passion pour cet auteur ?
Peut-être en préambule, il y a le désir avant de... C'est-à-dire que je suis comment dire, traversé par des multiples désirs, et même quand je cherche une pièce peut-être plus classique, si l'envie, une envie d'exprimer ou d'aller dans différentes formes, j'aime bien la compilation des genres, on va dire. Alors, sans appeler ça pluridisciplinaire, c'est pas spécifiquement ça, mais vient toujours se poser la question, bah, pour moi en premier, la question musicale. Alors c'est pas tout à fait le cas dans celui-là, mais du coup est venue la question du cinéma. Et il se trouve que dans cette pièce, c'est un passage obligé. Ensuite, c'est que pourquoi Spreckelburg ? Bon, déjà parce que c'est vraiment un vrai auteur de théâtre, dans le sens que c'est vraiment écrit pour le plateau, dans le sens que lui joue ses pièces, enfin la plupart. Ce n'était pas le cas de L'entêtement. L'entêtement, il ne donne toujours pas les droits en espagnol parce qu'il la garde pour lui-même. Et c'est un théâtre assez complet, donc qui traverse plusieurs thèmes, avec la capacité de faire un théâtre multithème, un théâtre aussi avec des anachronismes, avec des... il y a des excroissances à l'intérieur, il y a des digressions. J'ai assez l'habitude de m'exprimer par digression, donc ça me convient très bien. En plus, c'est très bien écrit. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien la dramaturgie, on va dire occidentale, qui, je crois, maîtrise bien l'image, le sens de l'image. Je parle de manière générale, qui connaît le cinéma également. Et en même temps qui est empreint de cette folie qu'on peut trouver chez... folie typiquement sud-américaine. Enfin, ce serait un peu réducteur de dire typiquement sud-américaine, parce qu'entre un Colombien et un Argentin, je pense que c'est assez différent. Ou un Vénézuélien, en l'occurrence, puisqu'il s'agit là d'une Miss Venezuela aussi. Et aussi l'histoire des Miss Venezuela. Oui, je dirais une folie, quelque chose à la Borges, entre Cortázar, Borges, où il y a toute cette influence... qui correspond au melting pot qu'est l'Argentine, de par son émigration, voilà, de par ses auteurs aussi, enfin de cette richesse-là.
Tant dans L'entêtement que dans La paranoïa, il y a vraiment de multiples rebondissements, parfois chaotiques. Comment avez-vous pu vous colter avec cette œuvre ?
Alors, il y a la première complication chez Spreckelburg. Disons, dans L'entêtement, c'était la succession, enfin, trois points de vue d'un même moment entre guillemets historique, on parlait de la fin de la guerre d'Espagne. Dans La paranoïa, nous sommes dans un genre assez particulier qui est la science-fiction, qui généralement est pas tellement l'apanage du théâtre. Il faut bien le dire, c'est assez rare de trouver des pièces de science-fiction. Il y en a de Bradbury, il y a Coppi aussi, qui est également argentin. Et qui dit science-fiction dit forcément référence au passé. Donc nous, on a pris le mode de qu'est-ce que pour nous une science-fiction d'opérette, je dirais d'opérette, parce qu'un personnage s'appelle Giacomo Brindisi, qui fait très opéra italien. Donc on a été chercher du côté de la série B, de la série Z, de la science-fiction années 50-60, enfin de toute cette science-fiction qui est en fait déjà une science passée, qui est déjà une culture passée pour nous. Et en même temps, il se trouve que dans ce monde de science-fiction imaginaire, Spreckelburg imagine, parle quand même du savoir des archives, de qu'est-ce qui reste encore dans 5000 ans. Alors tout ça, c'est plutôt assez humoristique, on va dire. Par exemple, on parle au féminin. S'il y a deux... disons trois hommes et une femme, on va dire bien allons-y mesdames. Donc, et ça s'est glissé de manière assez subtile dans le discours de Spreckelburg.
L'histoire se passe donc au Venezuela, mais vous faites intervenir ce personnage qui est dans le sous-marin, les Chinois, Hugo Chavez, que vous interprétez d'ailleurs vous-même. Il y a une certaine difficulté à décrypter un petit peu tous les aspects de ce texte.
Alors le pitch, on va dire, est assez simple. Nous sommes... Donc on est entre 5 000 et 20 000 après le premier contact. c'est-à-dire non après Jésus-Christ, mais après le premier contact. On calcule à cette période, on calcule le temps selon le calendrier maya. Il faut savoir que le calendrier maya est bien plus complexe que le nôtre, puisqu'il superpose les cycles. Donc voilà, c'était aussi un sujet d'amusement, on va dire. Puis il y a des créatures qui s'appellent les intelligences. Est-ce que c'est une métaphore du public, de la pensée, de la doxa, ou est-ce que c'est ça, ou c'est des extraterrestres? Disons qu'en prime abord, c'est des extraterrestres qui, comme dans Star Wars, on va dire, maintiennent l'équilibre du cosmos. Et en maintenant l'équilibre du cosmos, la Terre, à quoi sert-elle? À fournir de la fiction, car elles se nourrissent de fiction essentiellement. Sauf qu'elles ont épuisé tout, c'est-à-dire qu'elles ont mangé les livres, les DVD, même les caméras de surveillance vidéo, enfin bon, la musique, la danse, elles ont vraiment tout englouti. Elles se sont calmées pendant un moment parce qu'on leur a envoyé un objet, mais qui maintenant ne les convient plus. Donc ça, c'est un secret de la pièce, et maintenant cet objet les convient plus. Et il faut absolument leur fournir une fiction qui soit capable de les nourrir pendant un petit moment. Et pour faire ça, on réunit, avant cet Armageddon, on réunit un groupe, un peu Mission Impossible, on va dire, de personnages qui sont quand même des pointures dans leur domaine, mais qui ont aussi la défaillance qui correspond, ou le manque qui leur correspond. Donc ça veut dire un cosmonaute, mais qui a été victime d'un accident, un mathématicien qui est très à l'aise avec les nombres complexes, mais qui ne sait pas calculer 2 + 2, un colonel des opérations spéciales terriennes, j'ai commencé par les garçons, et les femmes, donc une écrivaine américaine à succès, Julia Gay Morrison, et un robot G4, on va dire, un personnage qui s'appelle Béatrice, qui est en fait un robot très émotionnellement atteint, donc atteint de virus émotionnel, donc qui s'invente des telenovelas toute la journée, mais qui est un robot fabriqué par des robots, qui est plus qu'humaine. Donc voilà, donc tout ce beau monde se réunit dans un hôtel à Piriápolis. Piriápolis est en Uruguay, c'est en face de Buenos Aires, donc il y a une malice par rapport à ça, dans le sens que Raphaël Sprengelbourde est de Buenos Aires. Et puis voilà, donc tout ce beau monde va essayer de constituer une fiction pour satisfaire ces intelligences d'après leurs règles. Et cette fiction, il se trouve que c'est une, on va dire au départ, une parodie de telenovela vénézuélienne. Alors transposée en français, on a tenté un hommage au cinéma, qui est également, je pense, contenu dans la pièce. Donc, à l'intérieur de cette énigme policière, de ce polar, on retrouve des allusions à Almodovar, à Fassbinder, à David Lynch, peut-être. Enfin, c'est le retour qu'on en a, et c'est aussi ce qu'on voulait y imprimer.
On retrouve aussi bien dans la paranoïa que dans l'entêtement ces distorsions spatio-temporelles. Vous aviez dans l'entêtement cette vue des différentes situations mais prises à partir du même moment. Là, il y a aussi ce que vous appelez une pensée kaléidoscopique. Quelle est la partie fiction, respect du texte de Sprengelbourde? Comment vous avez-vous réussi à tenir la barre dans cette création?
Au départ, je suis, on va dire, assez scrupuleux. Souvent trop, mais je suis de manière assez exacte ce que propose le texte, les didascalies. Ensuite, c'est peut-être de pousser la littéralité de certaines choses, de trouver aussi l'état d'esprit. Alors, on a aussi des secrets Sprengelbourdiens, on va dire qu'il y a une sorte d'esprit Sprengelbourde, et lui, ce qu'il appelle los cablos sueltos. Il y a des fausses pistes également qui revendiquent, qui donnent en tant que telles. Et disons qu'on peut dire qu'il mène le public en sous-marin, disons en bateau.
Cette mise en scène allie une partie de théâtre et beaucoup de cinéma.
Oui. Alors ça fait partie de la pièce, donc on peut difficilement monter la pièce si on ne se confronte pas à ce problème. Ah, j'en menais pas large il y a 6 mois, et je pense que là aussi j'ai trouvé les bonnes personnes, donc Jean-Alexandre Blanchet à la réalisation, Didier Petit-Pierre comme chef opérateur, qui était vraiment un très bon chef opérateur, très très bon preneur de son, Youssef, et toute une équipe d'acteurs qui décide de faire du cinéma, disons, avec des bouts de ficelle. Et finalement, l'effet est assez impressionnant. Donc c'est une manière de faire du cinéma peut-être un peu plus fatigante. Il n'y a pas 40 personnes autour qui s'occupent des accessoires, de tout, des décors. Là, on a eu un immense plaisir. C'est une des parties les plus plaisantes de ce travail, c'est d'avoir tout tourné à l'intérieur du bâtiment du Grütli. Donc, il me semble qu'on ne le reconnaît pas, mais on passe du toit au sous-sol, à la salle. Donc on a vraiment transformé le Grütli en studio de cinéma. Et ça, j'en suis pas peu fier, on va dire. Et pour un résultat qui est... Oui, il y a effectivement, je dirais, dans la pièce, un bon tiers de cinéma. Ouais.
Et votre impression en tant qu'habituellement metteur en scène, en théâtre, passer maintenant à la réalisation du film, est-ce que peut-être à une nouvelle orientation, non ?
Pas forcément. Je pense qu'on va développer le principe, ça c'est sûr, mais ça nous a donné des autres idées. Et ce qui m'amusait, c'est aussi pour une première fois de mettre de la vidéo, entre guillemets, et d'en mettre beaucoup avec une qualité assez exceptionnelle par rapport au théâtre. C'est pas juste une vidéo décorative, elle est vraiment constituante de la pièce.
À l'avenir, un nouveau texte de Spiegelbourg est en préparation ?
Alors j'avais fait une proposition sur Bizarra, qui est une telenovela, qui est 10 épisodes de 2 heures, je pense, mais je pense qu'il faudrait quelque chose comme le Label Plus ou des moyens un peu plus importants que ce qu'on a ici pour pouvoir le faire. Donc voilà, il faut une volonté, et ça résiste un petit peu, on va dire, mais c'est sûr qu'évidemment je vais repartir sous Spiegelbourg. Ouais.
Genèveactive.ch